histoire particulière. Selon le dictionnaire de droit international pénal en 2015, un criminel de guerre est une personne qui a commis un crime de guerre et dont la responsabilité pénale individuelle se voit dès lors engagée. Parmi les chefs d'accusation retenus, l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, l'appropriation de biens non justifiés. La construction des 8 émissions d'une histoire particulière que vous allez écouter le samedi à 17h suit le même procédé. D'abord les faits. Ils sont souvent violents, difficiles d'écoute, mais nécessaires. Puis vient la personne elle-même. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son parcours? Comment a-t-elle basculé dans la banalité du mal? Et pour terminer, le récit de sa traque, sa chute, souvent sa mort. Chaque portrait démontre que, quelles que soient les époques et les guerres, hélas, l'histoire se répète.
Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles.
Madame Pauline était une matrone africaine, une mère de famille également. Jamais, je vous l'assure, je n'ai vu quelqu'un d'aussi haineux. Entourée de ses tueurs, elle les excitait, les appelait à travailler, travailler, travailler encore. Cela voulait dire assassiner, assassiner, assassiner.
C'est avec ces mots que le journaliste et grand reporter Patrick de Saint-Exupéry nous raconte Pauline Nyiramasuhoko dans son ouvrage intitulé « La traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique », publié en 2021.
Les tueurs issus de la garde présidentielle ou des bataillons parachutistes étaient fourbus. Qu'importe, Madame Pauline ordonnait « Il faut les tuer tous, il faut éliminer ces cancres-là ». Et elle s'interrompait, appelait un de ses assistants pour lui demander d'apporter des preuves. Des preuves de quoi? Du complot, répondait-elle sur le ton de l'évidence. Quel complot? Mais celui des Tutsis, bien sûr. Et l'assistant, s'emparant d'une pile de cahiers tendue par un soldat, disait « Regardez, les voici les preuves. » Il n'y avait que des copies d'écoliers. « Lisez, vous comprendrez, insistait-il. » On lisait, et on ne voyait que de simples devoirs d'enfants d'une dizaine d'années. Certains cahiers étaient tachés, d'autres un peu bâclés. Parfois, il y avait des graffitis, rien de plus. Vous voyez, reprenait Madame Pauline, c'est le complot. Tous, même les enfants.
Pauline Nyiramasuhoko, génocide rwandais au féminin, Alain Lefkovitch, Marie-Laure Ciboulet.
Lorsque je la rencontre en 94, c'était au mois de mai 94, donc un mois et demi, deux mois après le début du génocide, je tombe sur elle par hasard, je découvre cette femme que j'avais jamais rencontrée auparavant. Et ce qui s'était passé, c'est que j'arrivais de Kigali, j'étais remonté dans une ville qui s'appelle Gitarama, qui n'est pas très éloignée de Kigali, où s'était installé à l'époque le gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le gouvernement qui va organiser et réaliser le génocide des Tutsis. Tout au long de la route, déjà, c'était une route dévastée, quoi. Il y avait des traces de massacres un peu partout. C'était très difficile. Et en arrivant à Gitarama, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus comment, mais en tout cas, je tombe sur elle. Elle était un peu à l'écart du centre-ville, installée aux abords d'un stade. Il y avait des groupes militaires autour d'elle, la garde présidentielle, rwandaise, des éléments parachutistes. Puis quand j'arrive, je me présente et tout de suite, je me souviens très bien, elle vient vers moi et elle commence à discuter, quoi. Une femme très énervée, très excitée. Elle débordait d'une rage extrême. Derrière, pas très loin, il y avait le camion de radio-émission de ce qu'on appelait la radio des tueurs, Radio Mille Collines. Et Madame Pauline se dirige vers moi et puis on a cette discussion atterrante, surréaliste, pathétique. Et cette image des cahiers d'écoliers, ce soldat de la garde présidentielle arrivant, parce qu'elle lui avait ordonné, je me souviens, elle avait fait clac, soldat vient, en tapant dans ses mains, puis le soldat était venu, et puis il lui avait dit, va me chercher les preuves. Puis le gars était revenu avec ce petit tas de cahiers dans les mains, puis elle s'en était emparée, puis l'ouvrant, et ce propos, ce complot imaginaire qu'elle mettait en scène. Mais c'est évident que ça ne souffre absolument pas la discussion, qu'elle a pu faire tout cela, et sans doute encore plus.
Du 7 avril au 17 juillet 1994, près d'un million de Rwandais vont trouver la mort, essentiellement des Tutsis, assassinés par les extrémistes Hutus. Un véritable génocide, au cours duquel Pauline Nyiramasuko, alors ministre de la Famille et du Progrès des Femmes, va jouer un rôle clé.
De l'autre côté de la rivière, nous assistons à de premières scènes d'horreur dans la préfecture de Boutaré. Sur les collines abruptes de la commune Nyakizu, nous distinguons des maisons en flammes, des paysans qui courent dans tous les sens, les femmes et les enfants pourchassés, hurlant, certains se jetant dans la Kanyarou, les vaches apeurées dévalant les pentes. Je vois des gens habillés bizarrement, armés de machettes, d'autres avec de gros bâtons, des lances, et bien sûr, ceux qui fuient. C'est réel. Le professeur avait raison. Nyaruguru est à feu et à sang.
Je suis originaire d'Obutare, là où j'ai vécu jusqu'en 1994, donc.
Adélaïde Mukantabana, autrice de Innommable, un récit du génocide Tutsi, publié en 2016.
J'ai été évacuée dans mon village, pas loin d'Obutare, par un médecin de notre village, avec une toute petite partie de ma famille, et l'autre a été assassinée.
Je profite de la chaleur affectueuse de tous. J'ignore que cette nuit sera la dernière avec ces êtres si chers qui vont être tous massacrés. Parmi tous ceux qui étaient là ce soir, il ne restera que Bernadette et moi. En cette date, nous avons tous le sentiment que notre mort est programmée. Un présage de malheur plane pas loin de nos têtes. Le lendemain, on s'est dit au revoir, sans beaucoup d'espoir.
Depuis l'attentat, le 6 avril, on était dans les maisons, on ne devait pas sortir. C'était les couvre-feux nuit et jour, donc on ne pouvait même pas aller discuter avec le voisin parce qu'on ne sortait pas. Écouter la radio, on écoutait donc la radio Rwanda, c'était la radio de l'État.
Le président compare les Tutsis et les traîtres Hutus à une saleté. C'est connu, les Tutsis ne sont plus des humains. Ce sont des cancrelats qu'on écrase avec le pied.
Si je devais écouter, il y avait la radio du FPL, la radio Mravoura, il fallait se cacher, il ne fallait pas que le voisin entende le bruit de la radio Mravoura.
Le président intérimaire vient de donner l'ordre de tuer les Tutsis.
Donc du 6 au 17, on était terrés dans nos maisons. Limite, on n'avait plus de quoi manger. Quand on a été traité de cafards, quand on a été pourchassé, quand on a perdu les êtres chers, retrouver la parole, c'est quelque chose de très, très compliqué.
J'avais mon fils sur le dos.
Parce qu'il faut chercher les mots.
J'ai eu mon bébé sur mon dos pendant 2 jours et 2 nuits. Il me semble que pendant tout ce temps, je l'ai allaité seulement 1 ou 2 fois. Il ne pleurait plus. Je courais avec lui sur mon dos, je courais telle une possédée. Mon bébé, on aurait dit qu'il était accroché et qu'au lieu de me peser, il me donnait de l'énergie. Je voulais absolument le sauver. Ils ont coupé tout le monde à Nyangé. Je me suis mise à courir. J'ai couru vers Mugambwa. Je n'ai pas pu franchir l'Akabogobogo. Je suis revenue à Nyangé. Ils avaient fini de tuer. Dans chaque buisson, dans chaque trou, des corps. Des corps partout. Alors je me suis cachée dans un champ de sorgho. J'ai attendu la nuit. Puis je suis partie vers la Kanyarou. Quelqu'un a hurlé derrière moi. « Voici un autre petit cafard !» En même temps, il m'a asséné un coup de machette, un seul coup qui m'a projeté dans la boue au milieu des papyrus. Ce fut le dernier bruit dans mes oreilles. Après, plus rien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. J'ai repris connaissance, à moitié enfoncée dans la boue, devenue rouge. La tête de mon enfant était sous mes pieds, et le reste de son corps accroché à mon dos. J'ai défait le pagne quand je l'ai sorti du creux de mon dos. J'ai senti une douleur entre les omoplates, comme si je venais d'extraire un bout de mes muscles. Tétanisée, J'ai essayé de recoller les deux parties du corps de mon bébé. J'ai enveloppé son petit corps dans le pagne.
Un jour, l'aîné s'est demandé pourquoi il avait tout effacé.
Et je l'ai enfoui dans les papyrus.
Les souvenirs d'avant.
J'étais froide comme un glaçon.
Le frère et le père dont on n'a jamais retrouvé les restes. La mère telle qu'elle avait été. Il pense que c'est à cause des coups sur la tête. Des cicatrices qui zèbrent ses tempes. Il ne s'avoue pas que c'est par solidarité avec Petite qui est née après. Aurait-il tant aimé sa petite sœur s'il avait accepté de voir en elle le fruit de la catastrophe ? Certaines nuits, des bruits très distincts lui reviennent. La voix de sa mère chutant lentement et la cacophonie tenace de l'assaut des hommes qui l'avaient étouffée. Ce sont des nuits infâmes dont l'aîné sort courbaturé, le regard brûlant. Il a fini par réaliser que sa petite sœur venait de ce moment chiffonné dans les recoins de sa mémoire. Le son inavouable d'une horde, balayant un corps atone, autrefois doux et aimant. Le ventre de sa mère.
Extrait de Ejo, ouvrage de Beata Umubiei-Meres.
Pendant le génocide, depuis le début, le viol, ça a été l'arme d'exterminer les Tutsis parce que les équipes de violeurs, c'était des jeunes hommes infectés du sida. Ils étaient vraiment recrutés parce qu'ils étaient infectés du sida. C'était une façon de l'exterminer à petit feu. Il y avait le viol, il y avait le sida et parfois, pendant ces viols, ils utilisaient des outils. On a bien vu que à des moments, ils enfonçaient des morceaux de verre dans les vagins des femmes.
D'abord, tous les vrais partis, le MDR PAWA, le MRND, le CDR, bref, tous les partis qui œuvrent véritablement pour les intérêts du peuple Hutu doivent proclamer leur unité.
Extrait de Radio Mille Collines. Février 1994.
S'ils sont unis, nos militants le seront également. Et là, je vous assure, rien ne pourra nous résister. Comme ça, au moins, on verra qui veut l'intérêt de notre peuple et qui veut collaborer avec les cancrela.
Le génocide, pour le comprendre, il faut revenir au temps long, le temps de la discrimination contre les Tutsis, qu'il faut comprendre à partir de l'histoire coloniale du Rwanda, avec les Belges qui arrivent et qui racialisent en fait des classes sociales en créant des ethnies Tutsis et Hutu.
Juliette Bourg, historienne.
Racialisation de ces catégories qui sont reprises ensuite par les Rwandais au moment de la révolution de 59 puis de l'indépendance. Avec un pouvoir qui justifie son existence par le fait d'être le représentant du peuple majoritaire Hutu. Et donc, dès 59, puis les années 60, 70, il y a des massacres déjà récurrents contre les Tutsis et des discriminations qui sont mises en place à la tête de l'État, par exemple, dans l'accès à l'éducation, l'accès aux emplois dans l'administration.
Ces identités ont été construites pendant la période de colonisation,
Patrick de Saint-Exupéry,
entre autres par la Belgique, qui les a scellés dans le marbre au travers de pièces d'identité, d'affiliation autoritaire. Chacun était obligé de s'affilier à Hutu, Tutsi. Il n'y avait pas le choix. C'était inscrit sur les documents d'identité. Les Belges, à l'époque, vont faire d'énormes études scientifiques pour justifier ce choix en disant les Hutus ont un nez plus grand que les autres, les Tutsis sont plus grands. Enfin, c'est des considérations absolument stupéfiantes, incohérentes.
À partir de 1990, quand le Front patriotique rwandais, qui est composé majoritairement d'exilés Tutsis, cherche à rentrer à nouveau au Rwanda et à mettre fin à ces situations de discrimination contre les Tutsis, là, la société rwandaise et le pouvoir en place, le pouvoir du président Habyarimana, fait participer toute la population à l'effort de guerre et intensifie les discriminations et les violences contre les Tutsis.
On va avoir, par exemple, dès le début des années 90, ce qu'on appelle les 10 commandements du Hutu, qui est publié dans un journal extrémiste.
La révolution sociale, de 1959, le référendum de 1961, et l'idéologie Hutu doivent être enseignées à tous les niveaux. et à tous les niveaux.
Tout doit diffuser largement la présente
idéologie. Tout doit diffuser largement la présente idéologie.
Lorsqu'on le lit, c'est juste terrible, quoi. Il y a une phrase, entre autres, où il faut se méfier des Hutus qui se sont mariés à des Tutsis.
Filles de Hutus, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la raison.
Les Hutus doivent cesser d'avoir pitié des Tutsis.
Tout Hutu doit savoir que tout Tutsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la suprématie de son ethnie.
Les postes stratégiques, tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité, doivent être confiés aux Hutus.
À la guerre, il faut ajouter le contexte du multipartisme. À partir de juillet 1991, il y a une démocratisation de la société rwandaise avec des nouveaux partis. La liberté de la presse, la liberté politique fait qu'il y a un discours de haine qui se propage à partir de 1991. Et ces partis politiques ont également des jeunesses qui, de plus en plus, deviennent des jeunesses armées et des milices. Avec, par exemple, la création des milices Interahamwe, des civils qui sont entraînés et armés par le gouvernement pour ce qu'ils ont appelé l'autodéfense civile et la chasse aux complices du FPR. Et en 1994, on a donc toute une partie de la population qui est armée, entraînée et prête à chasser les Tutsis. Ces Tutsis, également, à partir de 1990, ont été mis sur des listes, recensées très précisément. Et donc, en avril 1994, c'est très facile pour ces miliciens de les trouver et de les tuer.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand ils s'étaient écrasés.
L'appareil et quand le génocide commence le 7 avril 1994, cela fait suite à l'attentat contre le président Habyarimana, pour lequel tout de suite le FPR est accusé.
Cela faisait 20 ans que le général-major Habyarimana était à la tête du Rwanda à la suite d'un coup d'État.
France 2, 1994.
Un homme de poigne qui supportait mal de voir son pouvoir remis en cause par une opposition de plus en plus revendicative.
Et donc il s'agit pour les Hutus de venger leur président à un moment où ça fait déjà 4 ans que tous les Tutsis qui vivent à l'intérieur du Rwanda ont été assimilés à des ennemis de la nation Hutu et des complices du FPR.
Ça a été un génocide très rapide, ben, tout simplement parce que on y a mêlé la population.
Alain Gauthier, traqueur de génocidaires Hutus.
La population Hutu représente quand même 80% de la population. Donc ça faisait une masse importante qui était susceptible de participer. Je ne dis pas que tous les Hutus ont participé au génocide, bien sûr que non. Mais le fait de dire aux gens, eh ben, écoutez, prenez la machette, prenez les lances, prenez tous les outils que vous avez chez vous et allez débusquer les Tutsis que vous connaissez, en montre l'efficacité et la rapidité. Et la préfecture de Boutaré a été une des préfectures les plus touchées par le nombre de victimes par ce génocide.
Boutaré, c'est une ville universitaire. Et Pauline va être renvoyée par le gouvernement intérimaire parce que le préfet de Boutaré est inefficace. C'est un Tutsi et il ne se passe rien à Boutaré alors que le pays est plongé dans l'extermination. Et donc Pauline est envoyée par le gouvernement intérimaire pour mettre fin à cette situation insupportable. Et elle va y mettre fin. Son fils va prendre la tête des milices Interahamwe. Et ces milices vont lancer la machine de l'extermination. Et Pauline, avec son fils, va être à la manœuvre.
Je voudrais demander à Madame Pauline Nyarama Souko de s'avancer.
Archives du procès de Pauline Nyarama Souko.
Nous prions de bien vouloir indiquer au tribunal
10 août 1997
vos noms, prénoms, date et lieu de naissance et vos occupations avant votre arrestation.
Je dois me lever.
Non, asseyez-vous. Asseyez-vous.
Ok. Et je m'appelle Pauline Nyarama Souko. Je suis née en 1946. Mes fonctions, j'étais ministre.
Elle a fait ses études dans la première école secondaire pour filles du Rwanda, l'école de Karubanda, qui était une école très prestigieuse où elle fréquentait les filles de l'élite du pouvoir de Kayibanda, du président qui était pendant sa jeunesse.
Juliette Bourg, historienne.
Puis elle a fait une carrière plutôt classique pour une femme, c'est-à-dire qu'elle s'est dirigée vers la carrière de monitrice sociale. Elle s'est très vite engagée pour les droits des femmes rwandaises, Elle a écrit, par exemple, un livret d'alphabétisation à destination des femmes rwandaises, où elle organisait des réunions spécifiquement pour les femmes, pour qu'elles apprennent à prendre la parole en public, à dire leurs revendications, ce qui était à l'époque très mal perçu dans la société rwandaise, qu'une femme s'exprime publiquement. Elle, elle les a poussées à faire ça. Donc elle était également à côté très engagée dans le parti présidentiel Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement du président Habyarimana. Et elle a grimpé parallèlement les échelons au MRND. Elle finit par devenir fonctionnaire pour un ministère avant de reprendre ses études en droit, puisqu'elle savait que c'était la condition pour être ministre, d'avoir une formation universitaire. Et une fois qu'elle terminera ce cursus de droit à l'université de Boutaré, elle deviendra ministre en 1992, ministre de la promotion féminine et de la famille.
L'origine, elle est d'une famille Hutu assez pauvre, de la région de Guitarama. C'est une famille de paysans. Et elle va rencontrer sur les bancs de l'école une femme qui s'appelle Agathe Kanziga, qui va devenir plus tard la femme du président rwandais Habyarimana.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, écrivain et spécialiste du Rwanda.
Et cette femme, Agathe Kanziga, c'est elle qui dirige l'Akazu. L'Akazu, c'est, au Rwanda, c'est la petite maison, c'est cette petite maison, c'est ce noyau dur qui va présider à la destinée du génocide, qui va l'organiser, le mettre en place et construire tout le génocide. Et donc cette relation d'enfance entre les deux femmes, hein, Agathe et Pauline, va faciliter l'accès de Pauline à des responsabilités jusqu'à devenir ministre de la femme et du bien-être pendant le génocide. Lorsqu'on connaît les deux femmes, et j'ai aussi vu Madame Kanziga, Agathe, elles ont la même violence à l'intérieur d'elles-mêmes. Et Pauline va très rapidement s'emparer de la pelle et pousser la population à tuer. Le complot, ce mystérieux complot qui est une paranoïa totale. Mais une paranoïa qu'ils ont construite pour arriver à leur fin politique.
Pauline, dès le départ, et d'ailleurs c'est intéressant parce que sa famille le dit, par exemple, quand elle est toute petite, elle a une ambition. Et quand elle est étudiante, elle en parle avec ses copines, etc. Elle a une ambition politique.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War.
Je pense que ça a un rôle aussi ultra important dans ce qu'elle va faire après. Et quand il y a ce choc de l'assassinat du président qui va déclencher le génocide, d'une part, elle voit une opportunité et d'autre part, elle s'installe en fait dans ce mouvement qu'on a appelé Hutu Power. Alors que la question, elle se pose, en tout cas, moi, je me la pose la concernant. C'est-à-dire que je suis pas totalement persuadée qu'elle est idéologiquement totalement dans ce mouvement Hutu Power, mais elle va rentrer dedans de manière extrêmement profonde parce que elle voit que c'est un moyen aussi d'accéder à de plus en plus de pouvoir. Et à un moment, il y a un shift, c'est-à-dire qu'elle va, parce que selon elle, ça ne va pas assez vite, ou elle va devenir opérationnelle, ce qui est assez étonnant parce qu'elle est quand même ministre à la base et que l'idéologie, elle n'est pas forcément opérationnalisée par les mêmes personnes. Parce qu'il y a un changement aussi physique. C'est-à-dire qu'elle passe de son poste de ministre, certainement avec, je ne sais pas, sa petite jupe et sa petite chemise, à une tenue militaire. Par exemple, pourquoi elle fait ça? Il y a des scènes qui sont reprises par les victimes pendant le procès, où ils racontent, par exemple, qu'il y a cette femme qui est enceinte, qui est prête à être tuée, en fait, et elle supplie, elle ne veut pas mourir, etc. Et Pauline est là, et elle arrive avec sa tenue militaire et sa calache, et elle dit aux hommes, « Tuez-la tout de suite ».
Elle est en charge de la sensibilisation, entre guillemets, dans sa préfecture d'origine. La sensibilisation, c'est la mobilisation des populations Hutu à participer au massacre. Elle est décrite par de nombreux témoins comme circulant dans les rues avec un mégaphone à la main pour appeler la population à tuer. Ensuite, même quand les Tutsis se réfugient à des endroits stratégiques dans la préfecture, par exemple comme au bureau du secteur de Boutaré, et au bureau de la préfecture, elle se rend sur place avec des miliciens. Elle est conduite par ces miliciens dans une camionnette. Elle se rend sur place de jour et de nuit. Et elle sélectionne les hommes à tuer, les femmes à violer, en faisant des discours là aussi de sensibilisation, en comparant les Tutsis à de la saleté dont il faut se débarrasser, en disant qu'il faut violer ces femmes tutsis qui jusque-là ont volé les maris des femmes hutus, etc. Et elle est à toutes les échelles de la mise en œuvre du génocide. C'est pour ça que c'est un cas vraiment intéressant, autant à la tête de l'État qu'au niveau de l'exécution, puisqu'elle dirige véritablement les miliciens sur le terrain, dont son fils.
Son fils a violé des femmes en sa présence, c'est ce que racontent des témoins. Là aussi, ça met en jeu des choses presque sacrées. Comment un fils peut violer une femme en présence de sa mère? Alors on a envie de se dire, non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, de la même manière que Rwanda, on a enfoncé des pieux dans les vagins des femmes parce que on tuait une bête. Je sais que lorsque on entend ça, on se dit, mais c'est de la folie. Mais non, c'est pas de la folie. Il y a un très beau mot d'un écrivain anglais qui s'appelle Chester Himes, et qui dit ceci. La folie, ce n'est pas perdre la raison, c'est tout perdre, sauf la raison. Et je crois que on est exactement dans cette vérité-là. Un génocide, c'est quelque chose de raisonnable lorsqu'on accepte quelques axiomes. Et ces axiomes sont à la base très simples. L'autre veut me tuer, l'autre est un animal. Si je ne veux pas être tué par cet animal, je tue l'animal et je n'aurai plus de problème.
Je ne sais pas quoi penser de ça. En tant que mère, je ne peux pas me mettre à la place de cette femme.
Adélaïde Mukantabana.
Je pense que ça devrait être un sujet d'étude. Je me demande pourquoi d'ailleurs ils ne mettent pas les spécialistes du mental devant ces personnes. C'est un sujet d'étude. Parce que ça dépasse l'entendement. Une mère protège. Et elle a incité à commettre l'innommable. Quoi.
On ne peut exister qu'au travers des représentations qu'on a du monde. C'est comme ça, quoi. On est obligé. Et on est obligé, dans nos représentations, d'avoir certaines formes de simplification pour ne pas trop nous embrouiller, pour que le monde nous reste accessible. Et donc, le père de famille, la mère de famille, ben, doit rester quand même une image assez propre. Enfin, on en a besoin. Si on venait à se dire un jour, un père de famille ou une mère de famille peut être un des pires criminels que l'on ait jamais imaginé ou même jamais osé imaginer, c'est totalement déstabilisant.
Moi, je crois qu'il y a d'une part une ambition et d'autre part une galvanisation aussi. Et ça, c'est ce qui est aussi typique, j'allais dire, au crime de masse ou à la violence de masse. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une effervescence.
La haine, c'est, lorsqu'elle est là, c'est un feu dévorant. Vous avez dressé un bûcher. C'est beau, un bûcher. C'est les flammes. C'est puissant, c'est fort. Ben, vous avez envie de l'attiser. Vous êtes hypnotisé par le bûcher. Vous avez lancé une mécanique, vous pensiez la maîtriser, puis ben même vous aussi, vous faites embarquer. Vous êtes toujours à la manœuvre. Mais vous la trouvez belle, cette mécanique. C'est beau. Il y a un sentiment de puissance là-dedans. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est d'abord la puissance qui explique tout ça. Après, tout le reste, je sais pas, quoi. Je sais pas.
Ils sont des dizaines de milliers sur des dizaines de kilomètres.
Antenne 2, juillet 1994.
Un peuple en marche qui fuit son pays, poussé autant par l'avancée du FPR que par la propagande de l'ex-gouvernement rwandais qui leur a demandé de quitter leur village.
Ce génocide a fait environ 1 million de victimes en moins de 3 mois.
Juliette Bourg.
Et quand le FPR arrête le génocide début juillet 1994, le gouvernement, mais aussi la majorité de la population hutu prend la fuite, notamment vers le Congo.
Après les civils, estimés aujourd'hui à plus de 500 000, ce sont maintenant les militaires de l'armée rwandaise qui cherchent à trouver refuge au Zaïre. Une armée en déroute, avec ses éclopés, ses hommes valides et ses officiers sans ordre et sans armes.
La plupart des génocidaires de Butare ont fui plutôt vers le Congo.
Alain Gauthier, traqueur de génocidaires hutus.
Dès qu'ils ont pris conscience que le FPR allait gagner la guerre. On peut dire que la plupart de ces grands responsables sont partis entre le 20 et le 30 juin en direction du Congo, du Zaïre à l'époque. Mais il faut savoir qu'ils ont profité pour pouvoir fuir de la présence des soldats français que la France avait envoyés dans ce qu'on a appelé l'opération turquoise. Il faut savoir qu'à partir de la fin juin, autour du 20 juin, la France envoie 2500 soldats. Alors, ils se basent au Zaïre, à Goma et Bukavu, et ils entrent au Rwanda et ils créent ce qu'on appelle une zone humanitaire sûre et ils occupent tout l'ouest du Rwanda. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que vont fuir au Zaïre une foule. On a évalué cette foule à 2 millions de personnes, 2 millions de paysans, de tueurs.
Surtout, ne vous arrêtez pas, continuez à marcher. Le FPR veut vous prendre en tenaille.
Depuis qu'on a pris la ville de Kigali, les gens marchent à pied. Les enfants, les vieux, les vieillards, tout le monde est venu. Vous verrez le bétail, vous verrez tout le monde. On est fatigué de marcher.
À l'époque, on entend le bitume des routes qui tremble sous leurs pas. Ils avancent tous.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, écrivain et spécialiste du Rwanda.
Certains, lorsqu'ils vont partir, vont tuer leur famille. Pas parce que le grand-père peut pas se déplacer, donc on préfère le tuer plutôt qu'il tombe aux mains de ces diables qui s'approchent. C'est complètement dingo, quoi. Dans leur fuite, on va continuer en même temps à éliminer les traîtres, etc. Et Madame Pauline, comme les autorités, vont initier ce mouvement et vont partir vers le Congo, le Zaïre de l'époque, pour organiser la résistance, pour organiser la suite.
Quand le FPR va entrer d'Adjisseigny, bien sûr, on ne va pas risquer notre vie, parce que nous savons que nous sommes la proie préférée du FPR. On va s'organiser, on va aller en cachette. Hein. Depuis 1959, ils étaient à l'extérieur. Nous autres, nous allons aussi à l'extérieur, nous nous organiserons. Ce n'est qu'une partie remise, si je peux vous dire.
Elle se met dans les hordes de réfugiés, donc elle se camoufle comme réfugiée, mais comme beaucoup d'autres, hein, criminels de guerre rwandais ou tout à l'époque.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War.
Et elle arrive à ce qu'à l'époque est encore le Zaïre, je crois. Elle arrive là-bas, elle est dans les camps. Donc elle devient réfugiée, en fait. Parce qu'elle a conscience, même si elle s'en défend après, qu'elle va avoir des problèmes de par ce qui s'est passé et ce qu'elle a commis.
Et donc Pauline va se retrouver dans la ville de Bukavu, qui a une espèce de bouillon de culture, qui est une ville où, à l'époque, doit y avoir à peu près 800 000, 1 million de réfugiés dans cette ville. Donc la ville déborde, grouille de gens de tous les côtés. Et Pauline va continuer, quoi, à travailler pour le génocide. On va commencer à réécrire l'histoire, on va commencer... On va toujours continuer la propagande. Et donc, ce qui est formidable, c'est que le passage de la frontière va permettre une bascule totale. Lorsque le gouvernement intérimaire était au Rwanda, mais ils étaient les coupables. C'est eux qui organisaient le génocide. Ils passent de l'autre côté de la frontière. Ils deviennent des réfugiés, donc des victimes. Et donc, ils vont tous commencer à dire mais c'est nous les victimes, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons faim, qui avons soif, c'est de la faute aux autres. Et ils vont justifier indirectement tout ce qu'ils viennent de faire. Et c'est en fait ce qu'ils viennent de faire va un petit peu passer à la trappe. Parce qu'il y a une masse de 2 millions de personnes, c'est spectaculaire. Il y avait peu de caméras, il y avait peu de presse pendant le génocide. Et brutalement, il va y avoir des dizaines de journalistes, des centaines de journalistes qui vont débarquer. Et dans ces camps de réfugiés, entre guillemets, victimes, on continuait le génocide, on continuait à assassiner les traîtres. Parce qu'il y avait des Tutsis aussi qui avaient été embarqués par le flou. Et on va reconstruire l'outil militaire, on va remobiliser la population, on va dire que c'était un revers, que ça n'était pas une défaite, et on dit mais il faut continuer le travail. Et Madame Pauline participe à tout ça, elle participe à des réunions, elle est toujours active, elle ne décroche pas.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été interviewée, je crois, par la BBC dans les camps, parce que quand elle arrive dans les camps, où vraiment ils sont dans des situations, cela dit, très difficiles, hein, de réfugiés, elle reprend un peu ses racines, j'allais dire, d'action sociale, et elle est très connue dans le camp parce qu'elle organise la distribution de la nourriture, la distribution des vêtements, donc elle reprend un peu cette panoplie, j'allais dire, d'assistante sociale, d'éducatrice sociale, qui en fait est son ADN au départ, et elle cache pas nécessairement son identité. D'ailleurs, quand elle est interviewée, elle se présente sous son nom, etc., et elle vante comment elle est très impliquée dans le fonctionnement du camp, etc. Donc je pense qu'il y a, au départ, il y a, et de toute façon, comme beaucoup d'entre eux, au départ, ils ne sont pas forcément inquiétés, ils ne se posent pas la question nécessairement de savoir s'ils vont être poursuivis ou pas. Et c'est au fur et à mesure que le tribunal pénal international se met en place pour le Rwanda et que les premiers actes d'accusation arrivent, que là, évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à se dire que ça va peut-être tomber sur eux, parce qu'elle, elle part au Kenya, je crois, seulement en 97.
Finalement, Madame Pauline va partir pour le Kenya, se réfugier au Kenya, parce que c'est quand même plus confortable, Nairobi, que les camps de réfugiés. Et Nairobi va, pendant plusieurs années, quelques années, devenir un peu la plateforme de toute la nomenclatura du génocide. Nairobi va être un lieu de regroupement de cette ancienne élite qui a commis le génocide et qui entend le poursuivre jusqu'au bout parce qu'il n'est pas achevé, parce qu'il y a eu un échec, mais bon, c'est un échec, c'est pas une défaite. On n'a pas été assez bon, donc il faut continuer le travail. Encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a toujours des gens qui veulent mener ce projet à son terme.
Je suis allé à Nairobi en décembre 1996. Pauline, je l'ai rencontrée à Nairobi parce que j'habitais dans le voisinage où elle habitait. Et c'est là où je l'ai vue pour la première fois, des visos.
Melchior, journaliste réfugié à Nairobi.
Quand je la voyais, quand je visitais mes amis qui habitaient dans le complexe où elle vivait, je la voyais une femme normale, joviale, qui parlait avec tout le monde, qui était une mère, comme toutes les mères rwandaises, et je ne la voyais rien de différent avec toutes les femmes que je connaissais du monde Rwanda. C'est quand on l'a appréhendé, quand on l'a arrêté à Nairobi, et que je me suis demandé ce qu'elle aurait fait, parce que ça m'a surpris d'apprendre qu'elle vient d'être arrêtée.
Elle est arrêtée par le tribunal pénal international qui frappe à sa porte un matin alors qu'elle est au lit avec son mari. Il la réveille, il la sort de là et elle dit avoir été surprise.
Juliette Bourg, historienne.
Et il s'occupe aussi d'aller chercher son fils. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais revu son mari, qui ensuite s'est exilé avec le reste de sa famille en Belgique.
L'arrestation au Kenya de Pauline, elle se place dans un contexte qui est beaucoup plus global. À l'époque, c'est Louise Arbour, qui est procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et qui partage aussi son poste de procureur avec le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et elle met en place une opération qu'on appelle Naki. Et il faut savoir que Louise Arbour, elle a toujours mis ça en place, c'est-à-dire qu'elle est très stratégique dans sa manière d'approcher les choses. Et donc, il y a cette opération qui est mise en place en collaboration avec la police kenyane, parce qu'à l'époque, le Kenya collabore avec les autorités du tribunal pénal international. Et donc, il y a 9 personnes qui sont arrêtées. Donc, c'est tout un travail qui dure pendant des mois, hein, parce qu'ils sont repérés, etc. Et l'opération, elle est faite par la police kenyane, parce que, évidemment, le tribunal pénal international pour le Rwanda, comme la Cour pénale internationale aujourd'hui, n'a pas de force de police.
Et ces premiers responsables arrêtés vont permettre, en fait, véritablement au tribunal international de démarrer ses travaux. Et entre autres, il va y avoir les aveux du Premier ministre, Jean Kabanda, qui va reconnaître le génocide et qui va mettre en cause directement Pauline, en parlant d'une des ministres les plus actives, les plus volontaires, enfin, je ne sais pas tout à fait les termes qu'il employait, mais c'est ce registre-là qui était extrêmement dynamique. Bon, plus tard, Kabanda va émettre d'autres versions, mais il n'empêche qu'il va faire ces aveux-là qui donneront, 3 ans plus tard, une première image du noyau dur du génocide.
Alors d'abord, ils sont extradés parce que, comme il y a un acte d'accusation hein, du tribunal pénal international pour le Rwanda, ils sont extradés, ils sont envoyés à Arusha. Évidemment, ils sont détenus. Et surtout, ce qui se passe après, c'est la finalisation de l'enquête et la préparation du procès. Donc, tout le temps, elle est en détention préventive, comme tous les autres d'ailleurs, et jusqu'à ce que son procès s'ouvre.
Le viol comme méthode de génocide au Rwanda.
Pauline Nyiramasunku. Une criminelle. Aux airs de mer poule.
Rwanda, la barbarie au féminin.
Le Monde.
Courrier international.
Une première femme condamnée pour génocide. Le Figaro.
Pauline Nyiramasunku faisait partie des grands concepteurs du génocide. C'est la raison pour laquelle elle a été jugée par le TPIR à Arusha, hein, le tribunal pénal international pour le Rwanda.
Alain Gauthier, traqueur de génocidaires Hutu.
Ce tribunal a été créé dès novembre, je crois, 1994, donc dès la fin du génocide, par le Conseil de sécurité. C'est un tribunal qui a jugé, je crois, un peu plus de 90 personnes, qui en a condamné une 60aine, 63, je crois.
On est quand même 3-4 ans après le génocide, hein, c'est très frais. Les esprits sont pas clairs, l'importance de l'événement n'est pas encore établie, on se rend pas encore compte.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, écrivain et spécialiste du Rwanda.
Il ne faut pas oublier que la Shoah commence à rentrer dans la conscience de l'Occident qu'avec le procès Eichmann. Entre la Shoah et le procès Eichmann, il y a une espèce de vertige, de blanc, de page qui n'est pas écrite. Là, on est 3-4 ans après, donc c'est encore très frais. Et on commence à entamer l'examen de ce qui vient de se passer. Bien entendu, les accusés vont profiter de tout ça pour vendre un discours qui, d'ailleurs, ce discours négationniste sera largement repris en Occident par un certain nombre de gens qui y auront intérêt. Entre autres, lorsqu'on parle de responsabilité accablante de la France, il est évident que des gens ont voulu nier ces responsabilités accablantes. Donc pour les nier, autant nier ce qui s'est passé. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc il va y avoir une certaine forme de laisser-aller ou de complicité générale avant de peu à peu parvenir à rentrer dans le champ du débat, à vraiment commencer à se mettre en position de se dire, est-ce qu'une femme comme Pauline peut avoir assisté à des viols commis par son fils? Combien de temps a-t-il fallu au tribunal pour commencer à juste oser formuler cette question?
On a cette Pauline qui approche la soixantaine, qui est un petit peu comme ça, toute timide, qui parle pas beaucoup, qui est là avec son fils.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We're Not Weapons of War.
Et donc on a cette image un peu tranquille, et de l'autre côté, ces témoins qui racontent des choses absolument monstrueuses. Par exemple, les propos qu'elle a tenus aussi, où elle a expressément dit aux milices ou tout qu'il fallait violer et ensuite tuer les femmes. C'est elle qui dit ça. Et on peut encore une fois se demander, en plus, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de se dire on va tuer de toute façon? Non, elle dit il faut les violer et les tuer après. Donc c'est quand même elle qui porte tout ça et qui l'opérationnalise sur le terrain et encourage les milices à le faire. Donc oui, heureusement qu'il y a tous ces témoignages qui sont pour la plupart du temps des témoignages directs.
Les témoignages lors de son procès sont très très durs.
Juliette Bourg, historienne.
Notamment sur ces affaires de violences sexuelles, les femmes qui ont survécu parce qu'elles ont été violées souvent, puisque... Elles ont été prises par des miliciens qui ensuite les ont laissées. On pensait qu'elles mourraient de toute façon. Et c'est vraiment des témoignages qui montrent de la cruauté pure. Et c'est pour ça que le tribunal pénal international pour le Rwanda a été la première juridiction à reconnaître le viol comme arme du génocide et non pas seulement comme crime de guerre. Puisqu'il y avait vraiment une volonté d'exterminer les femmes par le viol, de détruire la filiation, détruire leurs organes génitaux, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun enfant tutsi qui puisse naître. Des femmes de tout âge ont été violées par des hommes que Pauline Ramasuko choisissait comme étant considérés comme les handicapés ou surtout malades du sida. Puisque c'est aussi pour ça qu'on a considéré le viol comme arme de génocide dans d'autres procès, mais dans celui-ci, parce qu'elle choisissait des hommes porteur du VIH, qui était connu pour cela, pour aller violer les femmes tutsi, pour diffuser la maladie chez ces femmes.
Le procureur est autorisé à ajouter un chef de crime contre l'humanité, extermination. Le procureur est autorisé à ajouter un chef de crime contre l'humanité, viol. Conformément à l'article 3G de crime contre l'humanité, persécution, de Pauline, conformément à l'article 3H du statut, d'ajouter un chef de crime contre l'humanité, autres actes inhumains.
À Arusha, vont se retrouver rassemblés au début 10 accusés, puis 20 accusés, puis 30 accusés, qui vont bénéficier de toutes les largesses que doit offrir la justice, c'est-à-dire de l'accès à une bibliothèque, de possibilités de connexion Internet, d'une assistance juridique forte payée par la communauté internationale. Donc tous ces accusés se retrouvent et vont élaborer une doctrine de pur négationnisme. Ils vont se mettre d'accord entre eux. Le temps est très long. Ils n'ont que ça à faire. Et la balance n'est pas forcément égale. À la fois, les accusés sont dans des conditions de confort qui sont normales. Mais sauf que les témoins, eux, ils vivent dans un pays dévasté. Donc, les témoins sont des rescapés. Il faut discuter avec un rescapé pour comprendre. Un rescapé, dans un premier temps, ne peut pas formuler son histoire. Ses propos vont être heurtés, les repères temporels vont être perdus, il va se tromper sur un détail. Et c'est pas parce qu'il mentira, c'est juste parce que le rescapé se sent coupable. Pourquoi moi j'ai survécu alors que tous les miens ont disparu? Et ça mine. Ensuite, il va en permanence revivre le fil de ce qu'il a vécu. Comme un ralenti au cinéma qui tournera en boucle. Et il va finir par s'embrouiller un peu, par mélanger. Il va lui falloir des années avant de réapprivoiser son histoire, avant d'être capable de la poser en mots, de la porter en récit, de manière, aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas le monde du génocide, de manière cohérente. Et donc ces rescapés qui viennent au tribunal sont faibles. Et donc ce sont eux qui vont porter l'accusation face à des gens qui se retrouvent dans des conditions idéales pour se défendre.
Dans les tribunaux, les avocats de la défense, voilà, ça s'est passé comment, voilà, ils cherchent des détails, alors que même en parler, c'est déjà un problème.
Jean Ouzindaza, directeur de l'unité de plaidoyer, Commission nationale de lutte contre le génocide.
Et les détails, c'était des détails qui déshumanisaient plus l'individu. Avoir vécu ça et ensuite encore raconter ça, et une personne là devant la cour dans les tribunaux internationaux, elle donne sa version, mais elle est attaquée par la défense. Alors que c'est pas le témoin qui est accusé. Mais arrivé là, c'est comme si c'était le témoin qui est accusé. Quand les avocats de la défense t'attaquent pour détruire tes arguments ou ton histoire, pour moi je trouve que c'est une négation de ce qui s'est passé.
Et dans le procès de Madame Pauline, ça va être assez stupéfiant. Les avocats vont prendre comme enquêteurs pour le dossier de Madame Pauline des membres de sa famille. Vont être payés des membres de sa famille, ceux-là même qui nient le génocide et qui nient absolument tout. Ils vont dire, il ne s'est rien passé, c'est ce que dit Shalom. Je me promenais, je n'ai pas vu de mort. D'où ces 10 ans de procédure. Et puis en plus, les procès ont été joints. Donc c'est très compliqué quand vous avez un procès joint, parce que vous avez la mère, le fils, la belle-fille. Il y a aussi, je crois, 2 autres filles qui étaient poursuivies.
C'est un procès qui s'est vraiment joué en famille, puisque dans la défense de Niramasuko et de son fils, on a dans l'équipe de défense son beau-fils, ses filles qui témoignent à des charges, son mari qui témoigne à des charges, des photos de famille qui sont mises comme pièce à conviction pour montrer à quel point le fils n'a pas pu violer parce qu'il était bon père de famille. Elle aussi, des témoignages à connotation morale, en disant c'était une bonne grand-mère, une bonne mère. Elle aurait jamais pu faire ce dont elle a été accusée. Et elle-même joue beaucoup sur cette image de protectrice de sa famille pour justifier qu'elle n'ait pas pu participer au massacre, par exemple en disant comment elle a tout fait pour les protéger pendant le génocide en étant à la maison, en ramenant de la nourriture, etc.
La ligne de défense qu'elle épouse, c'est assez intéressant parce que évidemment il y a celle de ses avocats, qui est la ligne de défense, j'allais dire, commune à énormément de criminels de guerre qui nient les faits. Donc déjà, elle plaide non coupable. Et au-delà de la stratégie de défense qui est prise par ses avocats, elle-même, elle continue à dire, et elle l'a dit auparavant, qu'elle se pose en fait en tant que mère de famille et femme. Et elle dit à plusieurs reprises comment vous pouvez imaginer qu'une femme, mère, puisse commettre ce type d'acte. Donc elle est dans un déni total de ce qu'elle a commis. Et il faut savoir qu'au procès, les médias ont beaucoup commenté ça. Elle est habillée très strictement, avec une jupe, elle a un petit chignon, elle a ses lunettes. Je crois qu'elle a 59 ans quand son procès commence. Donc elle a cette image un peu de votre vieille tante que vous auriez à votre dîner de Noël. Donc elle fait vraiment très sobre et peut-être elle a ce look un peu de l'assistante sociale que vous voyez derrière un bureau et qu'effectivement, vous ne pourriez pas penser un quart de seconde qu'elle a ordonné des viols et qu'elle a demandé à massacrer des gens plus rapidement, etc. C'est pas du tout imaginable. Donc heureusement qu'il y a les témoignages, parce que il y a quand même une ambiance au départ du procès de questionnement, de se dire, on la voit et on se dit, mais oui, en fait, comment c'est possible qu'une femme comme ça, avec son petit chignon et ses lunettes, avec son fils, là. Et on ressent aussi l'amour qu'elle a pour son fils, et ça se ressent aussi beaucoup au procès. Donc on a du mal à imaginer, au premier abord, qu'elle ait pu commettre quoi que ce soit. C'est un des seuls procès, à ma connaissance, où on a une mère et son fils, l'un à côté de l'autre, jugés pour les mêmes faits et en même temps, quoi.
Ce que Pauline Niramasuko laisse comme spécificité, c'est la reconnaissance qu'une femme puisse participer à des actes de violence sexuelle génocidaire, puisque malgré les recherches qui avancent, l'accès aux informations qu'on peut avoir, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à concevoir, qu'une femme participe à des violences génocidaires, exterminatrices à ce niveau-là. Mais encore plus, il y a un tabou autour de la participation des femmes aux violences sexuelles. Et son cas permet de réaliser que c'est possible. C'est des personnalités qu'on a tendance à exceptionnaliser, à définir comme des monstres, parce que ce sont des femmes qui se sont pas comportées comme des femmes, qu'elles ont pu faire ça. Alors que pour le cas de Nela Masuko, c'est une femme qu'il faut rattacher à son contexte, puisque de nombreuses femmes ont participé au génocide au Rwanda. Il faut dépasser cette stupeur, le fait de les penser comme extraordinaires, exceptionnelles, des déviantes, alors qu'elles sont aussi le fruit d'un contexte spécifique de mobilisation des femmes à la violence. Les femmes ne sont pas moins violentes que les hommes, sont sociabilisées évidemment à être moins violentes, mais comme ça a été le cas dans l'Allemagne nazie, même au Cambodge, en Yougoslavie, il y a eu une participation des femmes au génocide. Pour le cas d'Allemagne nazie, c'était quand même une minorité de femmes. Là, la différence avec le Rwanda, c'est que c'est un génocide qu'on a appelé génocide de proximité, où la population civile a participé à l'extermination de ses voisins Tutsis. Et donc la possibilité pour les femmes de participer facilement sans avoir à avoir une carrière militaire ou à devenir gardienne de camp, par exemple, avec des formes de participation qui par contre sont spécifiquement féminines, par exemple pas forcément en prenant les armes pour tuer, mais en dénonçant, en encourageant les tueurs, en pillant les cadavres, en acclamant les viols, en dénudant les cadavres de femmes. Donc des participations différentes mais essentielles à l'efficacité du génocide au Rwanda. Les témoins, encore aujourd'hui, 28 ans après, quand on leur pose des questions sur ces femmes, restent très déçus qu'en fait une femme ait fait ça, leur ait fait ça, plus qu'un homme. Parce que y a quelque chose de l'ordre social vraiment qui s'est retourné à ce moment-là.
Elle est la première femme reconnue coupable de génocide par une institution internationale. À Arusha, en Tanzanie, le tribunal pénal pour le Rwanda a condamné aujourd'hui à la prison à vie l'ex-ministre rwandaise de la famille, accusée de crimes de génocide et crimes contre l'humanité lors du massacre des Tutsis à Butare, dans le sud du pays.
Il y a deux verdicts, puisque d'abord elle a été condamnée à perpétuité avant de faire appel. Et d'être condamnée à 48 ans de prison. Donc elle a fait appel sur des vices de procédure, mais en fait c'est une peine qui n'est pas plus clémente, puisque vu son âge, en la condamnant à 48 ans de prison, l'idée c'est qu'elle meure en prison et qu'elle ne sortira jamais. Donc.
Le dossier Nela Masuku n'est toujours pas clos. Sa belle-fille est entre les mains de la justice rwandaise, où elle va être jugée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Près de 30 ans après, ça a du sens.
Oui, ça a du sens. Ça a du sens pour les victimes, puisque c'est très difficile de savoir que des personnes qui ont participé à l'extermination des vôtres ou à vos propres blessures soient à l'étranger, non jugées. Et surtout... Il y a encore beaucoup de choses que les rescapés ne savent pas sur la façon dont sont morts les leurs. Donc c'est encore très important pour les victimes que ces personnes soient jugées pour des questions d'impunité, mais aussi d'informations très pragmatiques sur la façon dont sont morts les membres de leur famille ou leurs amis, etc.
C'était Pauline Nela Masuku, génocide rwandais au féminin, avec Patrick de Saint-Exupéry, Juliette Bourg, Céline Bardet, Alain Gauthier, Jean Rousindaza, Adélaïde Mukontabana et Melchior, avec les voix de Sabine Pakora, Violette Fossat. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Hussein-Bazic, rescapée de la guerre en Bosnie, spécialiste des crises et des conflits à Sciences Po et ancienne du TPY pour ses traductions, ses recherches et ses contacts. Merci également à Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire.
Mon nom est Sirin Kiesamiti.
Des fois, par hasard, on trouve des fosses communes.
dans notre région, comment se fait-il que personne n'a parlé de cette fosse? Voilà. Alors là, tu remets en question l'aspect vérité sur ce qui s'est passé. Comment se fait-il que sur 30 prisonniers qui ont été inculpés, comment se fait-il que personne n'ait parlé de cette fosse? Donc tout n'a pas trouvé réponse. On n'est jamais satisfait avec la justice quand il s'agit du génocide. Et aussi, on ne pourra jamais tout comprendre du génocide. On va vivre avec ça. Après un certain temps, tu prends une décision. Tu dis, je respire, j'ai faim, des fois je tombe malade, des fois je ne veux pas mourir. Tu commences et tu luttes pour la vie. Tant qu'on respire, on cherche à vivre.
Archivina Delphine André, prise de son Anthony Thomasson et Nadège Antonini, réalisation Marie-Laure Ciboulet, mixage Nadège Antonini, coordination Christine Bernard, attaché de production Sylvia Favre, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
Ces minutes les plus horribles de ma vie. Le quatrième bourreau me maintenait plaqué contre la porte ouverte.
Il m'a ordonné de m'enterrer. J'ai refusé. Le sang de mon enfant est sur mes mains.
Leur travail terminé, ils se sont jetés tous les quatre sur moi. Ils ont déchiré mes habits. Ils se sont mis à me violer un à un.
Ils l'ont transpercé avec une lance et jeté dans le trou.
Ils préféraient sans doute que je meure.
Ils ont commencé à terroriser papa et maman. On les accusant d'avoir
tué. Puis enfin, sectionner la gorge avec un
couteau. J'ai depuis le début, commencé à pressentir l'issue de la foule de grosse lui brisa la nuque pour toute réponse. Elle s'écroula sur le sol.
À frapper ma fille, immaculée, sur le crâne.
Puis subitement, deux mitraillettes, des corps tombés les uns après les autres.
J'ai vu la cervelle lui sortir
sommet,
de la tête.
Je m'abattis sur le sol également. J'étais bien. Mon cœur continuait à battre pour toi. Je recouvrais mes esprits petit à petit. C'est une fois debout que je vis horrifié.
Il fallait donc les éliminer en priorité. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix.
Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange.